Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Je vous rappelle donc en quelques mots où nous en sommes. Les premières semaines avaient été consacrées à des généralités sur les biographies et les autobiographies en Chine, et plus spécialement, dans le cas des autobiographies, à la situation à la fin des Ming. Mais ensuite, je me suis concentré sur un texte particulier depuis la semaine dernière et même avant, qui est donc le Li Nianji, qui est donc l'autobiographie chronologique de Yao Tinglin, qui nous occupera encore un certain temps. Ce Yao Tinglin est un personnage par ailleurs totalement inconnu, et pour les meilleures raisons. Il n'a jamais obtenu le moindre titre officiel, ni occupé la moindre fonction, ni produit la moindre œuvre, que ce soit une œuvre littéraire, artistique ou une œuvre d'érudition, ni accompli la moindre action qui eût pu lui valoir ne serait-ce qu'une simple mention dans les sources, disons, habituelles vers lesquelles se tournent les historiens qui s'intéressent à son époque, donc au XVIIe siècle. Ces sources sont pour l'essentiel, et même dans leur quasi-totalité, des sources imprimées. Mais Yao Tinglin, nous l'avons déjà vu, a laissé derrière lui un manuscrit dont il ne pensait certainement pas qu'il dût jamais être imprimé. Je disais que Yao Tinglin n'a pas laissé d'œuvre, n'a laissé aucune œuvre. Et en effet, ce texte manuscrit peut difficilement être décrit comme une œuvre, entre guillemets, au sens littéraire ou académique du terme, même s'il se conforme, au moins d'un point de vue, du point de vue de sa forme, même s'il se conforme à un genre dont nous avons vu qu'il avait acquis ses lettres de noblesse à la fin des Ming, et je parle bien sûr de l'autobiographie chronologique. Si j'hésite à parler du Li Nianji comme d'une œuvre, ce n'est pas seulement parce que ce texte ne se singularise ni par l'originalité du style, ni, disons, par la noblesse de l'inspiration, encore que ça se lise très bien, que ce soit parfois même assez émouvant, et comme je l'ai déjà dit, certains passages ne seraient pas déplacés dans un roman. C'est pas seulement à cause de ça, mais c'est aussi et surtout en fait parce que c'est un texte qui n'était pas destiné à un public. Donc c'est pour ça que je dis que ce n'était pas à proprement parler une œuvre, ce qui est une définition comme une autre. Mais si ce n'est pas une œuvre au sens élevé du terme, en revanche, c'est indiscutablement un document et du plus haut intérêt et de la plus grande originalité sur la façon dont les événements de l'extrême fin des Ming et des premières décennies des Qing, donc grosso modo entre 1630 et la fin du XVIIe siècle, ont été vécus dans la société, et non pas simplement par l'élite lettrée et bureaucratique, et dans une région qui était l'une des plus vitales de l'Empire, aussi bien économiquement que politiquement et culturellement. Disons donc en gros le bas Yangtze, il y a plusieurs façons de désigner cette région, on dit parfois le delta du Yangtze, ou alors le Jiangnan, ce qui est encore le plus pratique, ce qui signifie tout simplement le sud du fleuve et qui désigne du Yangtze, donc, et qui désigne donc toute cette région depuis Nankin jusqu'à Songjiang et Shanghai. Et au-delà, en fait, jusque la partie nord du Zhejiang. Mais le Li Nianji est aussi un document sur la vie quotidienne de ce que j'appellerais peut-être la classe moyenne dans la même région. Disons d'une élite à la fois lettrée et commerçante qui a connu beaucoup de hauts et de bas pendant cette période. Et c'est ainsi que, au point de l'exposé où j'en étais arrivé, j'avais entrepris d'analyser ce qui relève de la sphère privée dans le Li Nianji. Il se trouve en effet que les événements, même les événements les plus quotidiens de la vie privée de Yao Tinglin, et tout ce qui concerne son environnement familial étendu, ce qui inclut, et c'est important dans ce texte, les familles alliées par mariage, que tout cela donc tient une très grande place dans le texte, ce qui n'est en général pas le cas dans les autobiographies chinoises, et cela même dans les autobiographies chronologiques, même si par définition celles-ci accumulent beaucoup plus de détails que des autobiographies d'un style plus traditionnel, je dirais peut-être recomposé et repenser. Mais il se trouve surtout que ce que Yao Tinglin a à dire sur ces sujets et d'une immédiateté et d'une franchise qu'on ne rencontre pour ainsi dire jamais dans les autobiographies chinoises, en tout cas pas avant l'époque moderne, et même là. J'avais donc commencé d'évoquer la famille de Yao Tinglin telle qu'il nous la présente dans son texte. Et j'en avais d'abord décrit la structure, et je crois qu'il ne sera pas inutile d'en rappeler en deux mots les principales caractéristiques, et peut-être de le faire, surtout au tableau noir, de façon un peu plus claire que je ne l'avais fait la semaine dernière. Le point important est qu'à la génération du grand-père de Yao Tinglin, la lignée s'était scindée en trois branches. Donc je vais construire ce tableau à mesure que j'évoque les personnages. Et puis je vais surtout mieux le répartir que je ne l'avais fait. Donc à la génération du grand-père de Yao Tinglin, sa lignée s'était scindée, enfin la lignée de son arrière-grand-père s'était scindée en trois branches, donc ce terme qu'on appelle, qui signifie une maison littéralement, Fang, répartie entre diverses résidences localisées dans la ville murée de Shanghai. Il y avait donc d'une part la branche aînée, alors c'est là qu'il faut que je mette les choses de façon claire. Donc l'arrière-grand-père X. Et comme dans le... Oui, ce que je vais mettre là, c'est en fait une partie, mais aussi avec des lettres françaises, de l'arbre généalogique reconstitué par Kishimoto que je vous avais distribué la dernière fois. Et comme dans cet arbre généalogique, et comme c'est d'ailleurs l'usage dans la littérature anthropologique, je mets des ronds pour les hommes et des triangles pour les femmes. Donc un arrière-grand-père qui a eu trois fils, et ce sont les trois Fang, hein, les trois branches du clan. Donc, et je mets aussi dans le même sens que Kishimoto, c'est-à-dire en commençant les plus anciens, les aînés, à droite. Donc la première, qui est celle donc, du grand-père de Yao Tingli, qui s'appelle Yao Yongfeng. Yao Yongfeng. Et... oui, ça, on verra la suite après. Yao Yongfeng. Et la deuxième branche, donc, est celle de son grand-oncle, Yao Yongti. J'écris pas les Yao chaque fois qu'ils s'appellent tous Yao. Hein. Donc, Yongti. Et enfin, une troisième branche, donc peu importe le nom, parce qu'elle est très peu mentionnée dans le texte. Enfin, on voit parfois apparaître le troisième frère, mais de façon tout à fait épisodique. Donc la branche aînée, la branche cadette et une troisième branche. Et cette lignée issue de l'arrière-grand-père de Yao Tinglin se trouve au centre du récit. C'était, si vous voulez, son environnement immédiat. Mais cela dit, on voit aussi apparaître, ça et là dans le texte, d'autres Yao qui sont parfois liés au clan dont nous parlons, enfin à la lignée dont nous parlons, de façon beaucoup plus éloignée. Et je pense, par exemple, à un personnage à qui on loue à un moment une des résidences dont je parlais, de ces résidences donc, qui ont été construites dans la ville de Shanghai, enfin je reviendrai là-dessus, un lettré, semble-t-il, assez pompeux, enfin un étudiant lui aussi, semble-t-il assez pompeux et antipathique, dont il est dit que c'est un des rares de ces Yao extérieurs qui sont définis d'une manière quelconque, dont il est dit que c'est un oncle situé en dehors des 5 degrés de deuil. Autrement dit, ça le situe en dehors du noyau de ce lignage. Et ces gens donc, qui apparaissent ça et là, ces Yao qui apparaissent ça et là dans le texte, appartenaient probablement, même certainement, à des branches qui s'étaient détachées de la lignée principale à des générations antérieures. À des générations X ou Y, au-dessus du tableau, vous avez des fils qui ont également créé leur propre branche. Voilà. Et l'ensemble de toutes ces branches constitue ce qu'on est convenu d'appeler le clan des Yao ou le lignage des Yao, c'est-à-dire Yao Zhu. Le mot Zhu étant évidemment le mot technique pour ces familles très étendues. Le lignage des Yao au sens le plus large. J'avais aussi expliqué comment la branche cadette était en quelque sorte la branche forte dans le dispositif et ceci tenait entièrement à la réussite sociale de Yao Yongti, donc celui qui est défini dans le texte comme le grand-oncle de l'auteur. En effet, Yao Yongti a passé le doctorat, c'est-à-dire l'examen métropolitain, enfin, c'est vraiment le top. Il a eu une carrière relativement longue dans l'administration et notamment comme haut fonctionnaire, une carrière pendant laquelle il a accumulé une fortune considérable. Et en outre, deux de ses fils ont la qualité d'étudiant présenté, ce qu'on appelle étudiant présenté, c'est-à-dire Kongsheng, ce qui au moins leur donne en théorie la possibilité, enfin pas automatiquement bien sûr, de rentrer dans l'administration. Oui, Kongsheng. Voilà, donc on passe à la... Alors, ce Yao Yongti donc, a épousé une dame dont le nom n'est pas donné dans le texte, d'ailleurs. Et ensemble, ils ont eu ces deux fils, qui sont appelés dans le texte l'oncle aîné et le deuxième oncle, qui tiennent beaucoup de place dans le texte. Donc, c'est les oncles. Hein. Oncle de Yao Tingling, que nous n'avons pas encore fait apparaître dans le tableau. Donc, ces deux fils de Yao Yongti étaient des Gongsheng, mais comme Yao Yongti lui-même est le seul de la famille dans cette situation d'avoir été effectivement un haut fonctionnaire, et qu'en plus, il est très généreux, c'est grâce à lui exclusivement que les Yao ont pu accéder à la position enviée de famille en vue. C'est ce terme que j'avais donné la dernière fois, Wangzhou, qu'on peut traduire aussi par grande famille, si on veut, à Shanghai, à la fin des Ming. En effet, son rang académique, donc de docteur, et sa qualité de haut fonctionnaire d'abord actif, puis retraité à partir de 1639, après 40 ans de carrière, tout cela garantit à l'ensemble de sa famille le statut de famille, ce que j'appelle une famille mandarinale, une famille de l'élite titrée, si vous voulez, avec, et c'est très important, avec tous les avantages fiscaux et somptuaires qui sont attachés à ce statut. Et ces avantages étaient considérables sous les Ming. C'est un point sur lequel je reviendrai plus tard. Et c'est en outre sa fortune personnelle qui permet à la branche cadette de ce système, de vivre sur un relativement grand pied et aux autres, disons, de vivre de façon confortable, en tout cas en toute sécurité. À chaque fois qu'il y a un coup dur, il est là pour les aider. En revanche, la branche aînée, donc celle du grand-père de Yao Tinglin, celle de Yao Yongfeng, cette branche était, enfin je la définis comme la branche faible, car d'abord elle ne comptait aucun titulaire, même du plus modeste rang académique, ni a fortiori de fonctionnaire, et en outre son patrimoine dérivait entièrement du statut officiel de la fortune du grand-oncle Yongti, enfin plutôt du frère du grand-père, du frère cadet. Et nous verrons plus tard en quoi le statut officiel de Yao Yongti était également un facteur potentiel d'accumulation patrimoniale. Tout dérive des avantages fiscaux, en fait, dont je parlais à l'instant. Encore une fois, je ne m'attarde pas là-dessus maintenant. Mais j'avais également expliqué qu'une des raisons de la faiblesse de la branche aînée, c'était la mésentente qui régnait entre certains de ses membres et les conflits parfois assez graves qui en ont été à plusieurs reprises le résultat. Or, pour Yao Tinglin, la principale responsable de cette situation, c'était sa grand-mère, qui était donc la troisième épouse de son grand-père, une certaine Madame Zhao. Donc, Zhao Yongfeng a épousé les deux présentes épouses, la première est morte, la deuxième, on ne sait pas trop, mais celle dont il s'agit ici, qui a apparemment le rang d'épouse principale, c'est Madame Zhao, puisqu'on appelle toujours les épouses par leur nom, si je puis dire, de jeune fille. Enfin, par leur patronyme, quoi. Donc c'est Zhao Shi. Et en fait, il n'est pas sans intérêt, il est même parfois assez divertissant, d'examiner les incidents qui justifient à ses yeux, aux yeux de Yao Tingling, une telle accusation. On trouve en tête du Lin Yanqi, placé avant la préface, un texte de Yao Tingling qui est rédigé à la première personne, donc c'est un texte de lui, sans aucune ambiguïté, qui se présente comme une sorte d'introduction et qui est essentiellement consacré à son grand-père et à son père, et accessoirement à son grand-oncle. Yao Yongfeng, son grand-père donc, que Yao Tingling n'a pas vraiment connu, y est décrit comme un homme bon, simple, dépourvu d'ambition, refusant de faire des choses contraires à la raison. Bukenzo Feili, je ne sais pas tellement ce qu'il entend par là, mais enfin c'est quelqu'un de raisonnable, disons. Contraire à la raison, ce serait ça. Donc il refuse de faire des choses qui sont feili. Vivant modestement et ne s'intéressant qu'à ses études. Yao Tingling retrace les étapes de sa vie d'après ce qui doit avoir été sa notice biographique dans la généalogie de la famille. Et il en ressort que, après avoir été obligé par la maladie de son propre père, donc de l'arrière-grand-père dans notre tableau, d'abandonner ses études très tôt et de se tourner vers la médecine, Yao Yongfeng a passé la première partie de sa vie, très exactement entre les âges de 20 et de 43 ans, à gagner sa vie comme maître d'école ou comme précepteur. Il y a toujours une ambiguïté entre le maître d'école dans les termes, invité par un village pour enseigner les gamins du coin, et puis le précepteur invité par une famille pour enseigner aux enfants de la famille. En tout cas, il gagne sa vie comme enseignant, et c'est également lui qui se serait occupé au début de l'éducation classique de son frère cadet, donc de Yao Yongti. Ça, c'est un détail qui apparaît en fait dans la préface. Et les deux frères étaient apparemment très proches l'un de l'autre, et lorsque le cadet, si je puis dire, fait sa percée, c'est-à-dire qu'il réussit au doctorat, après avoir franchi toutes les étapes intermédiaires, il semble qu'il ait franchi la première étape très tôt, à peine 15 ans, quand il est devenu étudiant patenté, donc en réussissant au doctorat et en gagnant, semble-t-il, très vite beaucoup d'argent comme fonctionnaire, il permet à son aîné de reprendre son indépendance, de recruter des disciples à qui on ne sait d'ailleurs pas trop ce qu'il enseignait exactement, mais apparemment avec beaucoup de succès, puisqu'il est dit, en tout cas dans cette notice, que plusieurs d'entre ses disciples sont devenus des fonctionnaires, le signe imparable de la réussite. Et j'ajoute que rassembler des disciples et leur dispenser un enseignement était un peu un must pour les lettrés de la fin des Ming qui n'avaient pas de carrière publique. Donc il fait cela, et enfin, Yao Yongfeng a désormais suffisamment de loisirs pour remplir, d'une belle calligraphie, est-il dit, une trentaine de fascicules avec des textes portant sur les classiques, sur la médecine, sur les arts de la sociabilité et sur d'autres sujets encore. Son cadet lui a également construit une résidence. Et concernant ce dernier point, on comprend plus loin dans le texte, ou plus à mesure qu'on lit le texte, on comprend qu'après son succès aux examens, ce qui nous renvoie donc au début du XVIIe siècle, Yao Yongti avait entrepris de construire différentes résidences en ville, qui sont toujours appelées Jai, ce mot qui signifie à la fois maison, mais parfois aussi branche d'une famille. Mais en l'occurrence, dans le Lignanti, enfin, c'est assez confus et j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment une coïncidence parfaite entre les différentes branches de la famille et les Jai, les résidences qui sont mentionnées. Je veux dire qu'on pouvait déménager de l'une à l'autre. Donc le texte parle de la résidence de l'ouest, du sud, du nord, etc. Donc la Sijai, Nanjai. Et ainsi de suite, donc des résidences où habitent les membres des différentes branches de la famille. Et donc, comme je le disais, Yao Yongti en a construit une pour son frère aîné. Enfin, Yao Yongfeng aurait même reçu le titre honorifique de médecin impérial, probablement grâce à l'influence de son frère toujours. Et c'est un fait qu'il continuait apparemment d'exercer la médecine, puisque, dit cette notice donc, de Yao Tingling, qui doit remonter à la généalogie du clan, il aurait sauvé la vie d'innombrables patients. Ça, ce sont des formules. Mais ce qui mérite d'être souligné, c'est que l'exercice de la médecine était, à cette époque, considéré comme une activité noble pour un lettré dépourvu de titre. Donc la médecine ou l'enseignement, c'était des activités absolument acceptables. Au total, donc, le grand-père de Yao Tingling apparaît comme ce qu'on pourrait appeler un gentleman aux compétences variées, non dénuées de rayonnement local, mais ne recherchant pas une fortune dont, de toute façon, il n'avait pas besoin, puisque son frère cadet garantissant en quelque sorte l'intendance, et c'est-à-dire sa survie et celle des siens. Quant à son fils unique, Yao Chongming, donc, qui est le deuxième personnage important dans cette introduction. Donc voilà, nous arrivons à cette génération. Donc, Yao Yongfeng et Madame Zhao ont eu plusieurs enfants, dont l'aîné est donc... c'est l'aîné. Non, c'est pas l'aîné, en fait. Il y a eu plusieurs fils. Il y a plusieurs filles avant lui, qui, d'ailleurs, donc, je ne donne pas leur nom, bien qu'on les connaisse, d'après le texte. Et puis, voilà Yao Chongming, le père de Yao Tingling. Chongming. Tel que le décrit son fils, qu'il a connu jusqu'à l'âge de 13 ans, Yao Chongming, son père, donc, était un homme cultivé, élégant, raisonnable, plein de talent dès son plus jeune âge. Et les souvenirs, en fait, de Tingling sur lui, dans le Lin Yanti, nous le montrent également bon gestionnaire et s'occupant de près de l'éducation de ses propres fils. Ces souvenirs, en fait, sont pleins d'une affection assez touchante, que Yao Tingling décrive son père, suivant les circonstances, comme plein de gentillesse, ou au contraire comme très sévère, notamment pour ce qui concerne les études. Et ils sont d'une affection qui sonne juste. Je veux dire par là qu'on est très loin des formules toutes faites de piété filiale qu'on trouve partout dans les biographies conventionnelles. Pour ne citer qu'un exemple, je pense par exemple à une scène charmante où le père et le fils se rendent ensemble à Zhoupu. Zhoupu, c'est cette bourgade située à l'est de Shanghai que j'ai déjà mentionnée, qui était en fait la bourgade d'où était la famille de la mère de Yao Tingling. Et ce que je n'avais peut-être pas indiqué, c'est que Zhoupu a le statut d'un djen. Ce qu'on traduit parfois par bourgade, mais ce n'est vraiment pas un bon mot, parce que les djen étaient parfois de très grandes villes. Simplement, c'était des villes qui n'avaient pas une présence d'un fonctionnaire de l'administration régulière, ou alors d'un fonctionnaire seulement d'un rang très subalterne, mais qui avait souvent une importance économique ou stratégique assez grande et une population importante. Donc, le père et le fils se rendent ensemble à Zhoupu, c'est en 1635, et Yao Tingling est dans sa septième année, et je cite, « Chacun sur son cheval, mon père devant, moi derrière », et les passants disaient, « Il est tout petit, il s'est monté à cheval », et il s'arrêtait pour m'admirer. Aujourd'hui encore, quand je prends cette route, elle est pareille qu'autrefois. Mais si les choses sont toujours là, les gens ont disparu et je ne puis m'empêcher d'en être empli de tristesse. Et dans un autre registre, je pourrais citer le passage où Yao Tingling se remémore l'enterrement de son père. Il avait donc 13 ans, auquel on les a suppliés d'assister, lui et sa mère, alors qu'ils ne se sentaient pas la force d'y aller. C'est une scène qui est en fait terriblement émouvante, dans son réalisme même. C'est que, en effet, Yao Chongming, qui avait été déjà un enfant maladif, est d'une santé fragile. La maladie qui l'emportera se déclare quand il commence à cracher le sang en 1638, il était peut-être tuberculeux, alors que son fils a 11 ans. Et après plusieurs rechutes, il meurt au début de 1640, dans sa 35e année. Et le texte d'introduction s'arrête là, avec la date des funérailles. Et il se conclut sur cette accusation terrible qu'on ne trouverait certainement pas dans une autobiographie, disons, normale, ni dans aucun texte si peu formel que ce soit. Je cite, « Les dépenses variées entraînées par les obsèques ont été entièrement payées par mon grand-oncle. Et si aujourd'hui notre famille, et il emploie là le mot « tia », c'est-à-dire la famille nucléaire formée par ses parents, ou fondée par ses parents, si aujourd'hui notre famille est ruinée et sans feu ni lieu, c'est entièrement à cause de ma grand-mère. » Déjà, à quoi correspond exactement cet aujourd'hui ? Donc, il dit « Tin », à présent. C'est-à-dire, à quel moment Yao Tingling a-t-il rédigé cette introduction avec cette conclusion ? Introduction, d'ailleurs, qui n'apparaît pas sur la copie du manuscrit du texte conservé à la bibliothèque de Pékin. Cette copie que j'avais mentionnée la dernière fois en disant qu'il fallait que j'attende de longs mois pour pouvoir la consulter, puisqu'elle n'est pas en France, mais j'ai un assistant extrêmement efficace qui me l'a trouvée en 10 minutes sur Internet, donc j'ai pu la consulter depuis... apparemment cette immense collection de manuscrits d'autobiographie conservés à la Bibliothèque nationale de Chine qui compte 200 volumes je crois, si on connaît des adresses on peut la trouver sur Internet. Bref, j'ai pu constater que cette introduction n'y est pas, il y a d'autres variantes intéressantes mais dont c'est pas le moment de parler. À quelle date, donc, Yao Tingling a-t-il écrit cette introduction ? Ce n'est pas très clair, en fait. Est-ce que c'est juste après les funérailles de son père, puisque le texte s'arrête là ? Ou est-ce que c'est plus tard, voire même beaucoup plus tard ? En fait, peu importe, mais ce que je trouve remarquable, c'est qu'en mettant ces quelques pages en tête de son manuscrit, en tout cas de ce qui semble être le manuscrit original, Yao Tingling a en quelque sorte placé toute son autobiographie sous le signe de cette quasi-malédiction à l'encontre de la mère de son père. Or, à y réfléchir, on imagine difficilement une brèche plus grave à l'ordre familial confucéen où mères et grands-mères étaient respectées à l'égal de leurs époux. Et on imagine difficilement quelque chose, une brèche plus grave au sentiment que cet ordre imposait à tout un chacun de, au moins, afficher. Et c'est un fait que Madame Zhao, que j'ai déjà indiqué, et donc j'ajoute... Puisque j'y suis, puisque je parle tout le temps de lui, j'ajoute tout de suite... alors, attendons, ça commence à se télescoper un peu. Donc, ça, c'est les oncles. Donc, le père de Gao Tingling a épousé une Madame Tin, que je mentionnerai tout à l'heure. Et ensemble, ils ont eu plusieurs enfants, dont Yao Tingling. Donc, c'est dans le tableau, si vous voulez... ce qu'on appelle en termes techniques égo, puisque c'est à partir de lui que toutes les relations de parenté sont définies. Oui, c'est ça. Donc, c'est un fait que Madame Zhao, l'épouse de Yao Yongfen, du grand-père de Yao Tingling, semble avoir été une assez redoutable mégère. Et pire que cela, une mauvaise mère. Yao Tingling affirme dans ce même texte d'introduction qu'elle n'a jamais aimé son fils. Il dit, un peu curieusement d'ailleurs, il dit « Mon père était d'une figure avenante et il était capable de perspicacité. C'est pourquoi, dès son enfance, il avait perdu la faveur de ma grand-mère. À 6 ans, ou 6 souhaits, donc 5 ans en fait, il avait été mis en nourrice dans la famille de Huang Wen, donc c'est un dépendant qui apparaît plusieurs fois, un dépendant de la famille qui était apparemment le comptable pour la branche aînée. Donc il a été mis en nourrice dans la famille de Huang Wen. Quand j'étais petit et que mon père m'a raconté cela, je n'ai pas pu m'empêcher de le mettre par écrit. » Quelles étaient les raisons exactes de l'aversion de Madame Zhao envers son unique fils et pourquoi semble-t-elle craindre sa perspicacité ? Et il emploie le mot tsongcha, qui signifie en effet être capable de voir à travers, si vous voulez, intelligent et perspicace. Donc il dit, capable de voir les choses. Donc les raisons de l'animosité de Madame Zhao envers son fils, et en particulier à cause de sa perspicacité, sont difficiles à concevoir, sauf à penser que c'était contre sa belle famille en général qu'elle en avait, et c'est ce que suggère en effet la suite de l'histoire, et qu'elle craignait que cela ne se voie trop. Quoi qu'il en soit, Yao Chongming se marie dans sa 16e année avec une Madame Tin, donc c'est celle que je viens d'indiquer. Voilà. Se marie avec une jeune Madame Tin, et comme c'était normalement le cas dans les familles chinoises, enfin majoritairement le cas, il s'installe avec sa jeune épouse dans la maison de ses parents. Mais quand 2 ans plus tard, il est en proie à une crise de dysenterie, sa mère ordonne au jeune couple de faire cuisine à part, ce qui veut dire faire cuisine à part définitivement, et elle leur coupe les vivres. Autrement dit, et là encore, c'est un moment classique dans la vie des familles chinoises, quand la cohabitation devient difficile. Autrement dit, elle impose de facto, sinon dans le cas présent par contrat, comme cela se faisait souvent, elle impose la séparation des biens et des activités domestiques, même si l'on continue de vivre sous le même toit. Heureusement, aussitôt qu'il apprend cela, le grand-oncle vient au secours du jeune couple et lui donne de quoi survivre. De même d'ailleurs que le beau-père de Yao Chongming, donc M. Tin, qui est apparemment aussi prospère que généreux. Et ce monsieur Tin aura d'ailleurs d'autres occasions d'aider et même d'accueillir son gendre et les siens à qui il semble avoir été très attaché. Ainsi, il interviendra pour arranger les fiançailles de Yao Tingling, alors qu'il est encore petit garçon, par deux fois même, mais à chaque fois la fiancée meurt bien avant que le mariage puisse être réalisé. Il accourra au moment de la mort de son gendre, donc du père de Yao Tingling, etc., etc. Bref, il est très présent dans le texte, et c'est là un des nombreux exemples dans le Lin Yanqi de cette étroitesse de lien entre famille et belle-famille à laquelle j'avais fait allusion la dernière fois. Là où les choses se gâtent sérieusement, c'est après la mort du grand-père de Yao Tinglin, Yao Yongfeng, qui survient en 1629. Ce que raconte Yao Tinglin, qui était encore un bébé à ce moment-là, il nous dit qu'il le tient de son père et qu'il l'a soigneusement noté. L'histoire apparaît, avec quelques variantes de détails, aussi bien dans l'introduction dont je viens de parler, et que dans l'autobiographie elle-même. Donc, profitant de ce que son fils, juste après le décès de son mari, de ce que son fils est malade et cloué au lit, Madame Zhao s'acoquine avec un de ses gendres, et ses trois gendres vivaient dans la résidence des Yao, comme je l'avais mentionné, donc c'est les maris de ces trois dames, qui étaient les sœurs aînées du père de Yao Tingyao. Donc, inutile de donner leur nom ici. Donc, elle s'acoquine avec un de ses trois gendres, dont elle semble avoir été en général beaucoup plus proche qu'elle l'était de son propre fils, ainsi qu'avec deux de ses dépendants ou de ses gens appartenant à la famille, c'est-à-dire ces tiajeunes dont j'ai déjà parlé, dont je reviendrai la semaine prochaine plus en détail sur toutes les questions que ça pose. Elle s'acoquine avec tous ces gens pour s'emparer subrepticement de tous les objets de valeur laissés par son mari et les mettre en lieu sûr. Plus frappant encore, et à vrai dire quelque peu étrange, elle brûle la plus grande partie des contrats par lesquels un certain nombre de familles avaient dévolu aussi bien leur personne que leur propriété à la famille Yao pour en devenir donc des dépendants. Il s'agit en l'occurrence des gens qui étaient attachés à la branche aînée, celle de Yao Yongfeng. Donc, il avait dans ses archives, sans doute, tous ses contrats, et la grand-mère entreprend de les détruire. Pourquoi s'est-elle livrée à de pareilles actions? On suppose que c'est d'abord pour priver son fils de la part d'héritage qui lui reviendrait en faisant tout disparaître. Peut-être aussi anticipait-elle de faire profiter sa propre famille des biens de son mari, faciles à cacher et à transmettre, c'est-à-dire les objets de valeur, les bijoux, l'argent, les objets d'art, etc. En revanche, la destruction des contrats reste quand même difficile à expliquer. Il y a peu de choses dans le texte sur, justement, la famille de Madame Zhao, mais, puisque je dis que peut-être qu'elle voulait faire profiter sa famille, mais nous savons au moins qu'elle avait un frère, un certain Zhao Sehuai. Alors, dans ce cas, il faudrait... Attendez, j'efface ça parce que c'est un truc... Donc, de parents X et Y, il y avait Madame Zhao qui est entrée dans la famille des Yao, et puis il y avait ce frère qui s'appelait donc Zhao Sehuai. Et ce Zhao Sehuai, lui, est assez souvent mentionné dans le texte et il se conduit toujours de façon extrêmement agressive envers les Yao, donc la famille dans laquelle sa sœur avait été mariée. Jusque dans les premières années des Qing, il est impliqué dans plusieurs disputes que sa sœur, Madame Zhao, ne fait bien sûr qu'attiser, avec injures, agressions physiques même, et parfois dépôt de plainte auprès de l'administration. Les relations entre les deux familles, les Yao et les Zhao, pour ce qu'on connaît de ces derniers, ces relations semblent donc à l'opposé des relations d'entraide et d'amitié dont j'ai parlé à propos des Tin, la famille de la mère de Zhao Tingling. Et c'est un fait que cette hostilité entre familles alliées par mariage, focalisée sur le sort de la fille qui est passée de l'une à l'autre, est elle aussi une configuration que l'on rencontre assez fréquemment dans les sources. J'avais d'ailleurs évoqué cette configuration négative, si on peut dire, il y a pas mal d'années, lorsque j'avais parlé des suicides d'épouses et des vendettas entre familles alliées par mariage qui s'en suivaient. Je l'avais évoqué, en fait, à partir de sources administratives, car ces affaires posaient toujours un problème sérieux aux fonctionnaires locaux et on en trouve de fréquentes mentions. Mais dans le cas présent, ce n'est pas exactement de cela qu'il s'agit et encore une fois, nous ne connaissons pas les causes profondes ou même immédiates de l'hostilité de Madame Zhao, appuyée donc par son frère, envers la famille dans laquelle elle a été mariée. Par chance, le vol ou la destruction des biens de son défunt mari par Madame Zhao est rapidement éventé. Certains des complices avaient en fait mauvaise conscience et ont dit ce qui se passait. Et les deux oncles de Yao Tingling, donc les fils de Yao Yongti, qui apparaissent sur le tableau, dans ce que j'ai appelé la branche forte de la famille, les deux oncles réussissent à récupérer au moins une partie des biens en question. Et ils enjoignent à la grand-mère Zhao de les conserver de nouveau chez elle, donc au vu et au su de tout le monde. Et à partir de là, conclut Yao Tingling dans son introduction, à partir de là, ma grand-mère éprouva une haine encore plus profonde. Le texte de l'autobiographie précise que si l'on a obligé la grand-mère à reprendre chez elle les biens qu'elle avait essayé de cacher ailleurs, et qu'on en est resté là, c'était pour éviter de porter trop gravement atteinte à l'harmonie supposée régner dans la famille. Alors que, ça c'est moi qui l'ajoute, alors qu'une dénonciation en justice aurait été tout à fait concevable. Mieux même, les querelles d'héritage et de partage des biens sont tout à fait typiques des affaires portées devant les magistrats par des familles qui s'entre-déchirent. L'autobiographie précise aussi qu'après cet incident, les gendres de Madame Zhao ont préféré quitter la résidence en compagnie de leurs épouses. L'un d'entre eux a même insisté pour ouvrir ses bagages afin de montrer qu'il n'emportait rien. Les deux autres, qui eux s'étaient servis au passage, ont dû faire de même et n'ont plus su où cacher leur honte après avoir été pris littéralement la main dans le sac. Les relations entre la mère et le fils sont à l'évidence restées exécrables par la suite. En fait, jusque sur son lit de mort, la simple évocation de sa mère met Yao Chongming dans tous ses états et provoque de nouveaux crachements de sang. Et après sa mort, la vindicte de Madame Zhao ne fera que se reporter sur son petit-fils, donc sur Yao Tinglin, et sur sa mère, Madame Jin. Tout de suite après le décès de Yao Chongming, elle tente de prendre le contrôle de tous les biens qu'il a laissés, mobilise de nouveau celui de ses gendres qui a l'air d'être son favori pour transporter les armoires, bourrées de vêtements et d'objets, présume-t-on, et tous les meubles chez elle. Mais devant la réaction furieuse de Yao Tingling, qui n'a encore que 13 ans à ce moment-là, elle est finalement obligée de demander l'arbitrage des deux oncles de l'autre branche, toujours eux, et ceux-ci imposent un partage grâce auquel la mère de Yao Tingling ne sera pas privée de tout, comme sa belle-mère espérait bien que ce serait le cas. Mais ces arrangements ont un coût. Ils obligent en effet la famille à louer certaines de ses résidences à des membres éloignés du clan, et Yao Tingling note à cet endroit que c'est à partir de là, donc il se place à la mort de son père en 1640, c'est à partir de là que nous avons commencé à perdre notre patrimoine en donnant des maisons à louer. On pensera peut-être, et c'est une remarque qui n'est pas inutile de faire au passage, on pensera peut-être que mettre en location un bien n'est pas la même chose que de perdre son patrimoine. Mais la réalité est que les transactions foncières ou immobilières dans la Chine à cette époque, disons dans la Chine prémoderne, étaient infiniment plus compliquées et beaucoup moins tranchées que ce que ces deux termes, vendre ou louer, risquent de suggérer. Il y avait en effet toute une gradation, aussi bien de propriété effective, c'est-à-dire matérialisée par un titre de propriété et l'obligation de payer les impôts fonciers, aussi bien de propriété effective que de droit d'usage dans les processus de transfert. Il est tout à fait impossible d'entrer ici dans le détail, c'est toujours très compliqué avec beaucoup de variantes locales, mais dans le cas présent, il semble que les transactions en question, pour lesquelles Yao Tingling use des mots « tiu » et « tie », qui signifie, donc tio signifie louer techniquement, mettre en location. Et l'autre mot signifie prêter ou emprunter et est également utilisé parfois pour des locations. Donc il emploie les mots tio et tie et les transactions qu'il décrit consistent à donner à des membres du clan, des membres éloignés du clan, donc probablement avec des prix de faveur, le droit d'occuper une résidence contre un paiement, si je comprends bien, une fois pour toutes, plutôt qu'un loyer annuel. Et même si c'est un loyer annuel, ce qui n'est pas précisé, il est plus que probable que ce droit d'occupation était plus ou moins définitif, ce qui voulait dire qu'en effet, la famille Yao, et là il s'agit bien de la branche aînée, celle dont Yao Tingling et ses deux petits frères sont désormais les seuls représentants mâles, que désormais la famille ne peut plus disposer librement de son patrimoine et que de ce fait, celui-ci peut être considéré comme perdu. Mais j'admets que tout cela resterait à mieux comprendre dans le détail. Et c'est d'ailleurs une des grandes sources de difficultés de compréhension de ces textes extrêmement proches des réalités sociales et familiales quotidiennes, c'est qu'ils sont souvent allusifs. Ils parlent évidemment à leur public de choses que celui-ci comprend tout de suite, alors que nous pataugeons souvent pour comprendre exactement ce qui se passe. Et les termes ne sont jamais employés de façon juridiquement rigoureuse. Quoi qu'il en soit, ces dispositions ne rendent pas pour autant beaucoup plus facile la vie de la veuve et des enfants de Yao Chongming, dont les finances sont en outre extrêmement précaires. Si la mère de Yao Tingling a réussi à s'organiser pour vivre modestement, et si une certaine tranquillité est revenue, l'hostilité de la grand-mère Zhao est toujours aussi virulente. Je cite, « Inévitablement, ma grand-mère provoquait un incident tous les 3 jours et une altercation tous les 5 jours. Ça devenait une habitude. » Elle réussit en outre à détourner à son profit des terres ou des personnes appartenant à la famille, je vous passe les détails, mais dans le récit de Yao Tingling, en tout cas, les procédés dont elle use sont toujours parfaitement outrageux. En fin de compte, et on est au début de 1641, un an après la mort de Yao Chongming, en fin de compte, le grand-oncle Yongti décide de séparer les deux femmes et d'installer la mère de Yao Tingling dans l'ancienne résidence qui s'appelle donc Lao Jai. Est-ce que j'ai encore Jai ? Oui, donc c'est là. Dans ce qui est appelé dans le texte l'ancienne résidence, qui était en fait la demeure où lui-même et son frère, donc son frère, le grand-père de Yao Tingling, avaient habité dans leur jeunesse, avant que Yao Yongti ne fasse fortune et n'entreprenne, comme je l'ai dit, d'installer les membres de la famille dans diverses nouvelles résidences acquises en ville. Et de ce fait, l'ancienne résidence avait été transformée en temple ancestral. Donc, il aménage et il équipe les lieux à ses frais. Il installe Yao Tingling et sa famille avec de quoi vivre. Il vient régulièrement voir si tout va bien. Et il envisage même de confier l'éducation de Yao Tingling et de son frère. Yao Tingling, à ce moment, a deux frères en bas âge, dont un a déjà commencé à apprendre à lire, à ses deux fils, donc aux deux oncles. Mais là encore, la grand-mère réussit à l'en dissuader en faisant courir le bruit que ce sont des bons à rien qui mettront le désordre dans la classe. Pourtant, dès le lendemain de la mort du père de Yao Tinglin, donc au début de 1640, son grand-oncle s'était engagé à s'occuper de l'éducation de celui-ci ainsi que de son frère cadet. Et il s'était engagé également à envoyer leur mère avec le petit dernier aller habiter dans sa famille à Zhoupu. En fait, ce n'est que l'année suivante qu'il se décidera à mettre ce projet à exécution, à prendre Yao Tingling chez lui et à renvoyer sa mère chez ses parents. C'est en effet que, entre-temps, de graves événements se sont produits. En 1641 et en 1642, la région a été frappée par une épouvantable famine. Ce que raconte Yao Tingling sur les effets de cette famine dans la ville de Shanghai, auquel il a été confronté quotidiennement, ajoute un certain nombre de détails tout à fait frappants aux témoignages dont on dispose par ailleurs sur cette catastrophe. Et ces témoignages sont fort nombreux. Mais c'est là un sujet que je traiterai plus tard. Pendant cette même période, Yao Tingling, qui avait été très déstabilisé par la mort de son père et par toutes les disputes de famille dont je viens de parler, est devenu un adolescent noceur et paresseux et de plus en plus livré à lui-même. Et il le dit lui-même, et autant que je puisse en juger, ce genre d'analyse sur soi-même est tout à fait exceptionnel dans les textes chinois à la première personne. Voici ce qu'il dit, et je trouve cette description d'un adolescent difficile particulièrement réussie, par de lui-même. « Depuis la mort de mon père, j'étais supposé étudier, mais je me laissais aller à mes envies et vivais dans la dissipation. J'étais incroyablement obstiné et à 15 ans, j'ai fini par perdre mon temps à des choses inutiles, l'esprit dispersé, mon énergie à la dérive, incapable de prononcer une seule parole agréable. » Quiconque a eu affaire à des adolescents difficiles reconnaîtra la justesse de cette description. Et c'est en effet à 15 ans, en plein milieu de la famine, qu'il commence à sortir, c'est-à-dire à aller passer des soirées à boire avec ses copains. Il raconte d'ailleurs comment, quand il rentre chez lui au milieu de la nuit, il lui arrive de trébucher sur les cadavres des gens morts de faim qui gisent au milieu des rues. Mais 1642 est aussi une année où, même dans une région comme le Jiangnan, qui jusque-là était restée à l'abri des rébellions et de la guerre, tout cela paraissait très lointain, on commence à s'inquiéter sérieusement de ce que réserve l'avenir. En effet, les rébellions s'étendent à présent dans le nord et dans le centre de l'Empire, et en fait sur le moyen bassin du Yangtze, et les nouvelles de la guerre avec les Mandchous deviennent de plus en plus alarmantes. De façon très frappante, Yao Tingling évoque une ambiance qui n'est pas encore de sauf qui peut, mais qui est certainement dominée par un sentiment d'insécurité générale. Disons que les gens commencent à prendre conscience de ce que les institutions qui ont toujours encadré la société pourraient bien s'effondrer bientôt, et de ce que ce serait alors un âge d'incertitude, de violence et de chacun pour soi, un âge où, comme il le dit aussi, les hommes d'idéal ou hommes de caractère se retroussent les manches et se préparent à agir. Les hommes d'idéal, les gens qui ont à la fois de la volonté, de l'ambition, de l'idéal et tout ce que recouvre le mot et ceci est en fait une extension de l'expression simplement jushu, qui est donc la même chose, un homme avec shu, qui est évidemment quelqu'un de un lettré ou enfin quelqu'un de hors du pas le tout venant, qui est possédé de grandes ambitions, jushu. Donc, ces hommes d'idéal, dans de telles circonstances, se préparent à agir. En bref, c'est une de ces époques excitantes qui accompagnent les changements de régime, pendant lesquelles les gens un peu aventureux et idéalistes ou idéalistes conspirent et conçoivent de grands desseins. Et qu'on pense par exemple à la révolution de 1911, où ce même terme « tchuchu » a eu une telle vogue. Dans de telles circonstances, bien sûr, il faut savoir se protéger pour survivre et pour cela, comme le dit encore Yao Tingling, si on ne se met pas en groupe, on n'arrivera à rien. Et c'est une formule assez frappante. Donc c'est Fei Dang, le Pushing. Si on n'est pas en groupe, Pushing, ça ne marche pas. Le mot important ici, c'est « dang », qui peut désigner, et qui désigne à la fin des Ming, un parti politique, ou l'équivalent d'un parti politique, mais qui s'applique aussi bien à toute espèce d'association réunissant des personnes mues par le même intérêt, soucieuses de s'entraider, voire liées entre elles par serment. Une société secrète, par exemple, ou même une troupe de bandits, comme on verra s'en former tellement dans la région, 3 ans plus tard, au moment de la conquête mandchoue. Or, c'est exactement ce qu'ont décidé de faire Yao Tingling et ses amis. Une dizaine en tout, tous des adolescents de bonne famille, certains même très riches, qui vont à l'école et qui s'amusent ensemble. Le leader de la bande, ou plutôt du serment, est même un étudiant brillant qui vient de passer premier à l'examen local du Tongsheng, l'équivalent d'un bac qui permet ensuite d'accéder aux études supérieures. Il prête serment, donc c'est le mot « meng », et l'on ne doute pas qu'ils se promettent de réaliser de grandes choses. Mais quoi exactement? Il est impossible de savoir quel était ce plan, il emploie le mot « tinghua », dont Yao Tingling nous dit qu'il a... qui s'est effondré au bout de quelques mois, il est impossible de savoir en quoi ça consistait, car le texte présente à cet endroit une lacune correspondante à une page environ. Et il semble que ce soit la même chose dans les 3 manuscrits qui existent. Mais ce qu'ils avaient en tête devait être assez grave, en effet, car le chef de la bande est arrêté par le magistrat de Shanghai, et s'il s'en tire avec seulement une quinzaine de coups de gros bâton, de planchette, c'est par faveur spéciale, parce qu'il est un si bon étudiant. En tout cas, pour le grand-oncle Yao Yangti, la coupe est pleine. Il renvoie dans sa campagne la mère de Yao Tingling, qui s'est avérée incapable de contrôler son fils. Il prend ce dernier chez lui et il le consigne dans sa bibliothèque pour qu'il se décide à étudier sérieusement. Ce que Yao Tingling est toujours aussi incapable de faire, d'ailleurs, c'est à ce point de son récit, en effet, qu'il parle de son instabilité et de son caractère difficile depuis la mort de son père, le passage que j'ai cité tout à l'heure. Et il ajoute encore « Et après que je suis passé sous la surveillance de mon grand-oncle, j'ai été incapable d'écrire un seul caractère d'écriture. Au début, quand j'ai rejoint la classe, je ne mettais pas le pied dehors, j'étais dégoûté et déprimé au plus haut point. » Cette classe, placée sous l'autorité d'un précepteur engagé par Yao Yangti, comprenait quatre petits garçons, enfin non, quatre jeunes garçons, c'était plus des petits garçons. Donc, outre Yao Tingling, il y avait aussi un oncle et deux neveux de Yao Tingling. Donc, oncle et neveu à la mode de Bretagne, il s'entend, car ils appartenaient tous à la deuxième branche et non pas à la première branche dont il était, lui, un membre. Un oncle et deux neveux, donc, qui étaient en fait tous du même âge que lui. Et cet oncle, mieux encore, cet oncle, qui était le fils d'une épouse secondaire de son grand-père, donc on peut encore l'ajouter. Donc là, je parle de Yao Yangti, donc avait les deux oncles dont j'ai toujours parlé, enfin jusqu'à présent. Mais il avait également, en fait, il avait plusieurs concubines, mais dont une dont il a eu un garçon qui s'appelle que Yao Tingling appelle toujours le oncle numéro 3, 1, 2, 3, mais avec seulement ce mot chou qui est moins respectueux que beau, d'autant plus que ce Sanshu, la concubine de Weijun, avait l'âge de Yao Tingling. Donc ce pseudo-oncle, si je puis dire, ainsi qu'un des deux neveux, avait été donné en adoption, alors cette fois-ci, chacun à l'un des deux oncles, au Dapo et au Epo, si bien qu'ils se retrouvaient à présent à la même génération que Yao Tingling, et qu'il l'appelait grand frère, Da Xiong, parce qu'il était un peu plus âgé qu'eux. C'est donc ces changements de génération par adoption qui sont assez rares, dont j'avais parlé un moment. En tout cas, après avoir broyé du noir pendant quelques mois, Yao Tingling s'habitue à sa situation et se lie d'amitié avec ses condisciples. Son pseudo-oncle et son pseudo-neveu, donc ceux qui ont été adoptés et qui se retrouvent en fait ses petits frères, lui vouent même une amitié quasi passionnée, et il semble effectivement le regarder comme un grand frère admiré, dont ils auraient tellement souhaité la réussite sociale et académique, alors qu'il ne l'a jamais atteinte, comme il le déplore d'abondance dans le courant de son autobiographie. Ceci se passe donc en 1643, et dans le récit de Yao Tingling, les deux années suivantes, celle de la chute des Ming et de la conquête du Jiangnan par les Qing, les deux années suivantes sont presque entièrement consacrées aux événements graves, cataclysmiques même, dans lesquels lui et les siens se sont trouvés emportés. Je veux dire que pour un temps, les affaires de famille passent complètement au second plan. Mais cette crise terminale de la dynastie des Ming, dans la région de Shanghai et de Songjiang, sur laquelle le témoignage de Yao Tingling, même limité à ce qu'il a vu de ses propres yeux et à ce qu'on lui a raconté, est extraordinairement intéressant, j'en parlerai plus tard, lorsque j'aborderai le thème de la grande histoire vue à travers le Lingyanqi. Ce à quoi je voudrais me limiter pour le moment, ce sont les effets de cette crise sur les fortunes de la famille Yao. J'ai déjà mentionné l'événement clé. Pendant les combats entre les derniers défenseurs du régime des Ming, c'est-à-dire des Ming du Sud, repliés à Nankin, nous l'avions vu, et les forces de la dynastie des Qing, installées depuis un an à Pékin, lesquelles forces en fait comptaient dans leur rang beaucoup plus de Chinois que de Mandchous. Pendant ces combats, donc, la résidence de Yao Yangti, le grand-oncle de Yao Tingling, a été pillée par des soldats Ming et il a perdu la plus grande partie de la fortune apparemment colossale que personne en fait n'aurait imaginée avant qu'elle soit vraiment étalée au vu et au su de tout le monde, la fortune apparemment colossale qu'il y avait thésaurisée sous forme de lingots d'argent, de bijoux, de pierres précieuses, etc. Comme la prospérité des Yao et leur train de vie reposaient essentiellement sur la richesse personnelle de Yao Yangti, qui en usait généreusement pour aider les autres branches de la famille, celle-ci s'est retrouvée, pour ainsi dire du jour au lendemain, privé de la principale base matérielle de son statut de famille en vue, de grande famille, à Shanghai. Soit dit en passant, la mère de Yao Tingling y a aussi perdu le peu qu'elle possédait à titre personnel. 3 ans plus tôt, en effet, au moment de la grande famine de 1641, dont je reparlerai également plus tard, elle avait engagé la totalité de ses bijoux et de ses vêtements précieux, enfin de ses soieries. Il s'agit probablement de ce qui constituait sa dot, dont elle gardait en principe le contrôle. Elle les avait engagés auprès de l'épouse d'un des deux oncles, ceci contre un prêt de 95 onces d'argent. En d'autres termes, l'épouse de l'oncle, c'est-à-dire la cousine par alliance de Madame Tin, opérait comme opère un monte-piété, c'est-à-dire qu'elle gardait par devers elle les objets qui garantissaient le prêt. Et cette somme de 95 onces d'argent, qui est relativement élevée, Madame Tin l'avait remise à son père, M. Tin, de Zhoupu, lequel essayait à ce moment de trafiquer pour survivre pendant la famine. Probablement, ce n'est pas précisé, mais il cherchait probablement à spéculer sur le prix des grains. Or, non seulement Madame Tin n'a jamais revu la couleur de son argent, mais en outre, lorsque la résidence de Yao Yongti, où vivaient également les deux oncles et leurs épouses, a été pillée en 1645, comme je viens de le rappeler, ses bijoux et ses soieries ont disparu avec le reste. Elle était donc ruinée, elle aussi. Le thème de la pauvreté, les stratagèmes pour trouver un peu d'argent et joindre les deux bouts, surtout lorsqu'on est confronté à des dépenses exceptionnelles mais inévitables, comme au moment des mariages ou des funérailles, et les sommes sont fort modestes comparées à la richesse passée, tout cela domine l'autobiographie de Yao Tingling pendant les premières années des Qing. Le grand-oncle Yao Yongti, malgré toute l'autorité qu'il a conservée, n'est pas le dernier à répéter qu'il est pauvre à présent. C'est pour cela, par exemple, qu'il a été obligé de marier son petit-neveu, Yao Tingling, dans une famille où celui-ci doit aller habiter, au lieu de ramener son épouse à la maison, comme il est considéré comme préférable de le faire. Et Yao Tingling se sent profondément blessé par cette décision, lui que son grand-oncle avait élevé comme si c'était son propre petit-fils. Mais ensuite, heureusement, ils se réconcilieront au cours d'une réunion de famille décrite de façon tout à fait touchante et là encore très naturelle, avec des échanges « mais tu es un idiot, mais tu ne te rendais pas compte », etc. Très peu chinois, enfin très peu littérature chinoise. Yao Yongti a pris cette décision donc de marier de façon uxorilocale son petit-neveu, a pris cette décision, il l'explique lui-même, parce que ça représente beaucoup moins de frais. Et Gao Tingling, donc, n'y est pour rien et il n'a pas besoin de se vexer. Et jusque sur son lit de mort, le grand-oncle s'exclame encore « Notre famille est très pauvre, ça ne peut pas aller. Comment ça pourrait aller comme ça ?» Et en effet, il faudra procéder à quelques ventes d'urgence au moment de ses funérailles, qui coûtent cher en mondanité, car beaucoup de personnages importants, notamment les fonctionnaires militaires et civils locaux, sont venus lui présenter leur dernier respect. Il faut les accueillir, les régaler, etc. Jusqu'à la mort de Yao Yongti, la famille peut considérer qu'elle tient encore son rang dans l'élite shanghaïenne. Mais c'est de façon en quelque sorte résiduelle. Et surtout, elle n'a plus les moyens de faire face aux obligations que cela implique normalement, si l'on souhaite en effet tenir dignement son rang. La partie du patrimoine qui a échappé au désastre en 1645, c'est-à-dire les terres, les immeubles, etc., semble avoir été réalisée peu à peu chaque fois qu'on avait besoin d'argent liquide. J'ai mentionné tout à l'heure le cas des résidences dont l'occupation est cédée contre argent à des membres éloignés du clan. Et vraiment, ce ne sont jamais des grosses sommes qui sont en jeu. Certaines propriétés, à la campagne notamment, sont purement et simplement vendues. En outre, en plusieurs occasions, des maisons sont démolies pour en revendre les matériaux. En 1651, par exemple, Yao Yongti, qui a à ce moment-là près de 90 ans, emmène son petit-neveu Tinglin pour évaluer ce qui semble être une assez belle résidence qui lui appartient, occupée apparemment par une sorte de locataire, semble-t-il, dans la ville de Shanghai. Il s'agit en fait de l'évaluer poutre à poutre et pierre à pierre, ce qui s'avère assez compliqué, et de tirer le plus possible de ces matériaux, à la fois pour rembourser des dettes et pour acheter des grains en vue de les revendre. Comme Yao Yongti a refusé le prix global, enfin un prix de gros, disons, proposé par un artisan, enfin un tianjen, c'est seulement pas un petit artisan, puisqu'il s'agissait vraiment d'emmener toute une maison, mais un entrepreneur de travaux publics, un un ouvrier, si vous voulez. Donc, Yao Yongti a proposé, en fait, j'en veux 90 tael. L'ouvrier a dit, pas plus de 80. Donc, Yao Yongti a refusé. Mais Yao Tingling prend, après ça, l'initiative de vendre l'édifice morceau par morceau, donc en le démolissant, et il réussit à en tirer une somme nettement supérieure à ce prix que demandait son grand-oncle, une somme dont il garde d'ailleurs une partie pour lui. Et le grand-oncle est absolument ravi quand Tinglin lui rapporte toutes les poutres et toutes les planches qu'il n'a pas pu vendre afin qu'il les stocke chez lui. On est donc très loin de l'époque où c'était des métaux précieux, des joyaux, etc. que Yao Yongti stockait au fond de sa résidence. À présent, ce sont des vieux bouts de bois. Le déclin rapide des Yao date donc de ces années. Et ce qui leur restait encore de prestige, malgré leur appauvrissement dramatique, s'est définitivement évaporé après la mort de Yao Yongti, une quinzaine d'années plus tard. En effet, de ces années, je veux dire, de la conquête mandchoue. En effet, tout l'édifice reposait sur son statut de titulaire du doctorat et d'ancien haut fonctionnaire, dont personne d'autre dans la famille, nous l'avons vu, ne pouvait se prévaloir, même de loin. Si ses deux fils, donc les fameux deux oncles, qui ont aussi beaucoup aidé, Yao Tinglin, si ses deux fils conservaient, semble-t-il, une certaine influence, un certain prestige local, qui leur permettait par exemple d'intervenir auprès du magistrat quand il y avait une difficulté à régler, c'était justement parce qu'ils étaient ses fils, et ce n'était pas simplement à cause de leur modeste statut d'étudiant, d'étudiant présenté. Il est d'ailleurs intéressant de constater à quel point un ancien fonctionnaire des Ming restait quelqu'un d'important, même aux yeux des autorités de la nouvelle dynastie. C'est en tout cas ce que suggèrent les célébrations au moment du 90e anniversaire de Yao Yongti en 1652, qui sont précédées la même année par celles offertes à son fils aîné pour son 63e anniversaire. Et à vrai dire, je ne vois pas très bien en quoi ce chiffre de 63 mérite un tel remue-ménage. Mais c'est le seul moment dans l'autobiographie où il est question donc de célébrer l'anniversaire de l'oncle aîné. Les hommages qui leur sont présentés, non seulement par une quantité de lettrés et de disciples locaux ou venus d'ailleurs, des disciples, c'est ce qu'on appelle des mentions, et toute personne à qui vous avez rendu un service se considérait comme votre disciple. Enfin, c'est tout ça, c'est ces systèmes d'obligations mutuelles qui structuraient la société chinoise à cette époque. Donc, beaucoup de gens se considéraient comme les disciples de... ce qui ne veut pas dire disciples au sens intellectuel du terme, mais obligés, disons, de Yao Yongti. Non seulement tous ces lettrés et ses disciples locaux, mais encore les fonctionnaires de Shanghai et de Songjiang viennent lui présenter hommage. Et plus frappant encore, les plus hautes autorités de la province envoient des présents, y compris le gouverneur général, le gouverneur du Grand Canal, etc. Et tout cela, en fait, ne laisse pas de surprendre, étant donné qu'après tout, Yao Yongti était certes un ancien haut fonctionnaire des Ming, mais il y en avait beaucoup d'autres. Et j'ai noté tout à l'heure qu'une bonne partie des mêmes fonctionnaires se manifesteront encore au moment des funérailles de Yao Yongti. En tout cas, pour son petit-neveu, Yao Tingling, ces célébrations en l'honneur de son grand-oncle, la foule qui se presse pour congratuler le jubilaire et lui présenter ses respects, les visites des officiels, les pièces de théâtre et les libations, tout cela marque une sorte d'ultime apogée dans l'histoire de la famille. Et c'est bien ainsi qu'il le formule lui-même. Il dit, je cite, « Après toute cette magnificence, jamais plus je n'ai été témoin de telles circonstances. » Et il revient à ce moment-là sur le thème de la grandeur et de la décadence. Et le mot que j'ai traduit par « magnificence », c'est-à-dire « shen », entre dans l'expression qu'on traduit normalement par « grandeur et décadence », c'est-à-dire « sheng shui ». Sheng, c'est la prospérité, la splendeur, tout ce qu'on voudra. Et Shuai, c'est le contraire, c'est la dégringolade. Donc, dans son texte même, Yao Tingling marque bien ces festivités du 90e anniversaire de son grand-oncle comme une dernière apogée, comme le début vraiment de la fin finale. Et il revient encore sur ce thème du changement sur lequel nous avons vu qu'il insiste tant, et il suggère clairement que il prend prétexte de cette ultime manifestation de gloire familiale pour clore la première partie de son autobiographie. C'est là que s'arrête en effet le premier chapitre sur trois. Et arrivé à ce point, je vais interrompre de la même façon cette partie de mon exposé sur la vie privée de Yao Tingling et de sa famille pour introduire, au début de mon prochain exposé, pour introduire une brève digression de nature, disons, historiographique, avant de revenir sur certains aspects auxquels je n'ai fait qu'allusion aujourd'hui, notamment la question des dépendants, des tiajun, hein, des personnes dépendantes de la famille Yao, et également sur la question de leurs activités commerciales. Le Linianti, je l'ai dit assez souvent, est un document tout à fait exceptionnel dans le corpus des textes autobiographiques chinois qui nous sont parvenus. Disons que, bien que je sois loin d'avoir encore tout vu, cela va de soi, je doute fort, pour diverses raisons, qu'il puisse exister beaucoup de textes de même nature, voire un seul. Mais il est vrai que les vieux manuscrits que les bibliothèques chinoises se mettent à extraire de leur fond, comme le texte dont je vais parler tout de suite, le deuxième manuscrit du Linianti dont j'ai parlé tout à l'heure. Il est vrai que les vieux manuscrits extraits par les bibliothèques chinoises et publiés depuis quelques années réservent parfois des surprises. Disons que dans l'état présent, le Linianti est exceptionnel à la fois par la qualité et la minutie de son témoignage sur la société dans laquelle vivait l'auteur et sur les événements qu'il a traversés, et par la façon dont ce même auteur arrive à faire vivre ses protagonistes et leur entourage par son réalisme psychologique même, qui leur confère une présence assez rare. Cela étant dit, le Linianti n'est certainement pas le seul témoignage individuel sur la transition dynastique entre les Ming et les Qing dans la région du Jiangnan. Et de même, la famille Yao est très loin d'être la seule famille de l'élite de cette région à s'être trouvée ruinée au moment de la conquête et pendant les premières années des Qing. Je me propose donc, arrivé à ce point, de dire un mot d'un texte qu'on peut considérer comme tout à fait parallèle et qui donne, disons, un certain contexte au Linianti en traitant en particulier de ce phénomène de la ruine et de la décadence d'une partie de l'élite du Jiangnan au moment du changement de dynastie. Ce texte, je vous le donne tout de suite, a pour titre « Iyo Piti ». Ce qui signifie plus ou moins, enfin même tout à fait, notes diverses, notes au fil du pinceau, littéralement, sur l'année Iyo, qui est l'année 1645. Iyo Piti, c'est un texte dont je connaissais l'existence parce qu'il est mentionné dans certaines études sur le Linianti, mais là encore, je n'ai pu y accéder que en fait la semaine dernière, toujours grâce à Internet, et c'est la raison pour laquelle j'en parlerai maintenant. Et c'est un texte, encore une fois, qui apporte un contexte intéressant au Linianti. Voilà donc ce que je commencerai à faire, et ensuite je reprendrai mais sous un angle différent, l'étude de la vie économique et privée des Yao, toujours basée sur le Linianti. Je vous remercie.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.